Voilà, bonjour à toutes et à tous, heureux d'être avec vous ce matin. Je suis venu seul, normalement mon épouse aurait dû être là, mais on a deux de nos enfants qui étaient malades cette nuit, et donc du coup ils sont restés à Saint-Étienne au chaud, mais vous avez bien sûr les salutations de Rebecca, mon épouse, et des enfants. J'en profite aussi pour remercier l'Église, puisque vous faites partie des églises qui nous soutiennent dans notre ministère, et donc merci pour votre fidélité. Je continue à voyager toujours pas mal en France pour annoncer l'Évangile dans les différentes églises, équiper les églises à l'évangélisation. Et puis je travaille aussi, comme beaucoup d'entre vous le savent, pour le réseau FEF et le Conseil National des Évangéliques de France, où je suis maintenant vice-président. Et je suis en particulier en charge de superviser ce qu'on appelle la vision missionnelle du Conseil National des Évangéliques de France. Et donc l'idée de regrouper toutes nos églises, les chrétiens, pour mieux annoncer l'Évangile dans notre pays. Et donc voilà, beaucoup de défis, mais aussi beaucoup de joie. Et nous nous réjouissons peut-être de voir dans notre génération aussi un nouveau souffle pour que les chrétiens se rassemblent, témoignent de Christ, implantent des églises. On espère envoyer des missionnaires aussi là où l'Évangile n'est pas encore annoncé. Et donc voilà, merci à vous tous qui priez, soutenez. C'est important ce que nous faisons, mais c'est aussi quelque part votre œuvre, puisque vous êtes partenaire dans tout cela. Donc un grand merci à vous tous. Ce matin, je voudrais lire avec vous un texte qui se trouve dans l'épître de Paul aux Philippiens. Et au chapitre 4. Philippiens chapitre 4, et on va lire du verset 4 jusqu'au verset 9. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de paix sera avec vous. J'imagine que pour vous tous comme pour moi, il vous est parfois arrivé de trouver la vie et la vie chrétienne assez difficile. Parfois, on est confronté à toutes sortes d'épreuves, on voit le monde autour de nous et toutes les difficultés simplement de commun des mortels, mais aussi les difficultés qu'on peut avoir en plus en tant que chrétien. Des tentations peut-être auxquelles nous sommes exposés, qui viennent challenger notre foi, des conflits, différentes difficultés. Et on se dit, mais comment dans ces situations-là garder notre joie dans le Seigneur? L'apôtre Paul nous dit « Réjouissez-vous, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Oui, il y a des fois où la vie chrétienne est un sujet de joie. On a vu ce matin quand Pierre rencontre Jésus et qu'il se voit accepté par lui, qu'il commence à le suivre, eh bien c'est un sujet de joie. Et peut-être que vous avez démarré votre vie chrétienne en étant tout feu tout flamme, comme on dit, plein de joie pour le Seigneur. Joie de témoigner, joie de retrouver les frères et sœurs, joie de passer du temps dans la parole de Dieu, dans la prière. Et puis les jours passent, et parfois la routine s'installe, les épreuves sont là, les difficultés. L'Église n'est pas toujours aussi idéale que ce qu'on aurait imaginé qu'elle soit. Et tout à coup, ça devient difficile de se réjouir. Pourtant, l'apôtre Paul qui écrit cette lettre revient constamment quand il parle à cette Église de Philippe, sur la joie, à tel point que certains ont appelé cet épître aux Philippiens l'épître de la joie. Paul parle au chapitre 1 déjà de la joie que l'Évangile soit annoncé, au chapitre 2 de la joie de souffrir pour Christ, à la fin du chapitre 2 la joie d'honorer les serviteurs de Dieu, et puis déjà au chapitre 3 de se réjouir dans le Seigneur, et il le redit encore à la fin. Et pourtant quand on regarde l'apôtre Paul, au moment où il écrit cette lettre, lui-même, il se trouve en prison. Peut-être à Césarée, peut-être à Rome, les interprètes hésitent sur la question, mais en tout cas, Paul est en prison à cause de sa foi. Il a annoncé l'évangile et cela a amené en prison. Et on se dit, mais comment est-ce qu'on peut se réjouir dans cette situation-là? Lui qui aimait parler de Jésus, qui aimait parcourir le monde. Et là, il se retrouve entre quatre murs, une petite cellule, sans doute très humide, pas chauffée. Et tout ce qu'il peut faire, c'est d'écrire à ses églises. Et malgré tout, il dit, je me réjouis. Et puis, si on lit la lettre, on se rend compte au chapitre 1 que Paul a des ennemis. Alors que lui annonce l'évangile, il y en a d'autres qui le font, mais avec rivalité. Comme s'il voulait faire mieux que Paul, ou différemment de lui, ou alors lui voler ses disciples. On ne sait pas exactement tout ce qu'il y avait derrière, mais toujours est-il qu'il y a des conflits. Et malgré tout, Paul dit, ben, c'est pas grave, je m'en réjouis. Parce que malgré tout, l'évangile est annoncé. Et puis, si on regarde la suite au chapitre 2, on voit les amis de l'apôtre Paul qu'il avait envoyé en mission, Timothée et Epaphrodite, et on se rend compte que c'était très difficile. L'un d'eux était proche de la mort. Il avait autour de lui des épreuves, des situations qui sans doute devaient le peser. Mais malgré tout, il était capable de se réjouir dans le Seigneur. Et au chapitre 3, il parle de ceux qui, dans l'Église, marchent même en ennemis de la croix de Christ. Des gens qui ressemblent à des chrétiens, se disent chrétiens, mais qui en fait agissent d'une façon contraire à l'Évangile. Et Paul met même en garde l'Église contre ces gens-là. Et au chapitre 4, juste avant notre texte, il parle de conflits, de gens qui n'arrivent pas bien à s'entendre dans l'Église. Et quand on lit tout ça, on se dit, mais il y a tellement de raisons de perdre sa joie. Et pourtant, Paul arrive à rester joyeux dans le Seigneur. Et dans notre texte, je crois que Paul est en train de nous donner trois clés pour qu'à notre tour, nous puissions garder cette joie. Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Trois clés qui, malgré les épreuves, malgré les difficultés, peuvent nous aider à, comme l'apôtre Paul, garder cette joie. Pas une joie qui nous promet une vie à l'eau de rose, où tout va bien tous les jours, mais une joie quand bien même nous devrions, comme lui, passer par les souffrances, les tribulations, les difficultés, les deuils et les épreuves en tout genre. Paul est en train de nous parler d'une joie qui n'est pas simplement le bonheur éphémère que ce monde connaît, mais une joie qui est plus profonde, celle qui est dans le Seigneur. Paul n'est pas en train de dire qu'on peut se réjouir de toute chose, mais plutôt qu'au milieu de toute chose, il y a toujours une raison de se réjouir dans le Seigneur. Et au verset 5, on voit que lorsqu'on a cette joie, eh bien ça se traduit dans un style de vie que Paul appelle la douceur. Cette attitude à l'image de Christ, cette bonté incarnée, cette générosité envers tous les hommes, qui vient de quelqu'un qui connaît la joie du Seigneur. J'appartiens à mon Dieu. Et même si je suis en prison, même si ça va mal, même si je peux garder cette joie, cette paix, cette douceur qui vient de Jésus-Christ. Elle est possible, pourquoi ? Parce que nous dit Paul, le Seigneur est proche. Non seulement son retour est proche, il vient, mais déjà, aujourd'hui, il est proche de nous par son esprit. Il est avec nous. Et Paul est conscient que lorsqu'il parle du Seigneur, il parle de ce Dieu dont il a dit au chapitre 1 qu'il a appelé les Philippiens depuis le début et qu'il va les garder jusqu'à la fin. Et donc si ce Dieu-là qui m'a sauvé, ce dont on vient de se rappeler en prenant la scène, et on a dit qu'on annonçait aussi sa mort jusqu'à ce qu'il revienne, eh bien si je vis dans cette réalité, il m'a sauvé dans le passé, et puis un jour il revient, eh bien alors quand bien même le présent serait difficile, je peux garder cette joie. J'appartiens à Jésus. Je peux aussi être joyeux parce que on voit au chapitre 2 que ce Jésus qui a quitté son ciel, qui s'est abaissé, eh bien Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et donc quand moi je passe par les difficultés et que j'ai l'impression que ce monde devient un chaos incontrôlable et où parfois on se demande s'il y a encore un pilote dans l'avion, eh bien je peux dire moi je suis du côté de celui qui est au-dessus de toute chose. Celui qui a le nom au-dessus de tout nom, qui contrôle toutes les circonstances, qui contrôle les rois, les puissants, sur cette terre, absolument tout, eh bien, je suis de son côté. Et Paul a cette joie qui est là parce qu'il connaît son Seigneur. Et cette joie va être entretenue tout d'abord par son intimité avec ce Seigneur. Regardez ce qu'il dit au verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est le premier secret de Paul pour garder cette joie, une intimité avec ce Seigneur. Ce Seigneur qui est mort pour lui, qui le garde jusqu'à la fin, qui a le nom au-dessus de tout nom. Eh bien, Paul va entretenir sa joie en cultivant une intimité avec lui. Quelqu'un a dit finalement, la vie chrétienne, pas compliquée. Quand vous êtes au centre, vous vous inquiétez. Si Dieu est au centre, alors vous l'adorez. Et je crois que c'est souvent le cas dans nos vies. Parfois, on a tendance à avoir toute chose qui tourne autour de nous. Et on essaye de jouer au géant Atlas, si vous connaissez la mythologie grecque, il y avait cette histoire du géant Atlas qui portait le monde sur ses épaules. Et parfois, les humains aiment jouer à cela. On a, au fond, un complexe de Dieu. On essaye d'être Dieu dans nos vies, de tenir toute chose. Et sauf que nous ne sommes pas Dieu. Et donc, très vite, quand nous jouons à cela, eh bien, nos vies ressemblent à un numéro de cirque, un petit peu comme ces tourneurs d'assiettes, vous savez, où ils ont une perche, et puis ils mettent une assiette, ils font tourner. Et puis alors, s'ils sont doués, ils arrivent à tourner une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Et les meilleurs arrivent à 8, 9, 10, mais il y a un moment, soit ils sont obligés d'enlever les assiettes, soit tout finit par tomber. Et quand nous sommes au centre, notre vie ressemble souvent à cela, où nous nous inquiétons de beaucoup de choses, parce que simplement nous ne sommes pas Dieu, et nous ne sommes pas capables de tout gérer. Et Paul nous encourage finalement à, au lieu de faire cela, au lieu de construire notre royaume, et parfois Dieu a une place dans notre royaume, mais c'est quand même mon royaume, à dire, mais non, c'est nous qui devons mettre Dieu au centre et regarder les choses selon sa perspective et être dans son royaume. Paul est en train de dire, mettez Dieu au centre, gardez cette intimité avec lui, tout le temps, en toutes circonstances, faites connaître à Dieu vos besoins, vos soucis. Et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Ne vous inquiétez de rien. Quelqu'un disait que dans la vie, il n'y a finalement que trois types de personnes. Il y a ceux qui ont déjà eu des soucis, il y a ceux qui en ont en ce moment, et il y a ceux qui en auront. Et parfois, vous faites même partie des trois à la fois. Vous avez le poids du passé, une montagne de détresse maintenant, et vous savez déjà ce qui vous attend demain. Et pourtant, au milieu de ça, on peut trouver la paix en nous tournant vers le Seigneur, à chercher l'intimité avec lui. Et Paul mentionne la façon de le faire par des prières, par des supplications et avec des actions de grâce. On peut être dans la joie tout en étant en train de supplier le Seigneur. Pourquoi ? Parce que la supplication nous rappelle au moins que même au milieu de nos souffrances, il y en a au moins un, qui sait. Il sait, il nous entend, il nous comprend. Et cela peut nous donner la joie. Moi-même, je n'ai pas été épargné par la souffrance dans ma vie. Je n'ai pas forcément souffert plus que beaucoup d'autres qui ont bien plus souffert que moi. Mais malgré tout, à force de vivre, on commence à avoir quelques coups, quelques blessures, quelques cicatrices. Et on pourrait dire qu'on a déjà connu quelques batailles et qu'on commence à rentrer dans l'amicale des vieux combattants de la souffrance. On a connu l'hospitalisation des enfants, du conjoint, un enfant handicapé, et avec tout ce que ça implique, les deuils évidemment, des proches et toutes choses. Et c'est pas le monopole de la souffrance, mais malgré tout, on commence à apprendre quelques leçons. Et une des choses que j'ai appris dans la souffrance, notamment en ayant un enfant handicapé, c'est que lorsqu'on traverse la souffrance, et parfois au long cours avec des choses qui sont là et qui sont là pour rester. Et on sait que ça ne va pas être simplement les soucis d'hier ou de maintenant, mais que ça va être des soucis qui vont durer et qui probablement vont nous accompagner pendant toute cette vie. Eh bien, on apprend qu'au milieu de cette souffrance, on peut découvrir des facettes de Dieu qu'on ne connaissait pas. Et souvent, quand on me dit, mais qu'est-ce que tu as appris avec le handicap de ta fille? Je dis, une des choses que j'ai appris, c'est que avant cela, ma vie, grosso modo, ça allait bien. C'était le ciel bleu, le soleil, et puis ça ressemblait à ça. Et un jour, ma vie a changé, et c'est comme si c'était devenu un ciel gris. où il pleut quasiment tous les jours. Mais j'ai découvert que dans ces ciels gris où il pleut, eh bien parfois les nuages s'ouvrent, le soleil passe, et c'est là où on peut voir les arcs-en-ciel. Celui qui ne connaît que le ciel bleu, c'est sympa, mais il ne verra pas souvent des arcs-en-ciel. Et la pluie, la souffrance, ces situations où nous sommes obligés de supplier Dieu, eh bien nous amènent à voir au milieu de cette souffrance sa bonté qui passe à travers les nuages. Et vous allez le voir de différentes façons. Parfois vous êtes épuisé, vous vous demandez qui va venir vous réconforter, et tout à coup vous voyez l'attitude d'un soignant que vous n'aviez pas prévu. Vous vous demandez de quoi va être fait votre avenir, et tout à coup vous êtes surpris que parfois, eh bien, c'est l'administration qui s'avère plus compétente et plus réactive que ce que vous imaginiez. Au moment où vous pensez que vous ne pouvez pas porter un jour de plus, et là tout à coup, les portes s'ouvrent. Parfois c'est une main sur l'épaule, parfois c'est un sourire. Parfois c'est simplement quelqu'un qui en silence vient marcher à côté de vous et vous rappelle que Dieu est présent. Et un des secrets pour garder la joie, c'est justement d'apprendre à regarder au milieu même des souffrances, des difficultés et des inquiétudes, de regarder ces choses-là, nous dit Paul, avec reconnaissance. D'apprendre à compter les bienfaits de Dieu, quand bien même c'est difficile. Est-ce que ça veut dire que les problèmes s'en vont ? Est-ce que ça veut dire que les détresses disparaissent, que la solitude est comblée, que demain sera forcément mieux ? Non, c'est pas ce que Paul dit. Par contre, il dit que lorsque cette intimité avec le Seigneur est là, eh bien au milieu même des souffrances, des difficultés, des problèmes, on peut expérimenter la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Dans la joie de lui appartenir, de savoir qu'il ne m'oublie pas, de savoir qu'il voit ma situation, qu'il la connaît, qu'il la comprend, que lui-même n'y est pas insensible parce qu'il n'est pas resté dans son ciel de gloire, mais qu'il est venu ici-bas, qu'il a souffert, qu'il a vécu toutes ces choses-là, et qu'il me comprend. Et non seulement il me comprend, mais il est auprès du Père, et il porte cela avec moi, dans la présence de Dieu. Et c'est ce qui fait qu'on peut garder cette joie au milieu de nos souffrances, garder cette intimité avec Jésus, prendre du temps dans la prière. Le monde va essayer de remplacer cette joie par toutes sortes de choses, toutes sortes d'idoles, du succès, de la carrière. Le couple peut devenir une idole, la famille peut devenir une idole, l'église peut devenir une idole, le ministère peut devenir une idole. Et toutes ces choses-là vont essayer d'accaparer notre joie et souvent nous laisser un goût d'insatisfaction. Et Paul nous dit, c'est dans le Seigneur qu'il faut vous réjouir. C'est ça la clé. Si vous voulez garder cette joie, c'est dans l'intimité que ça passe. En passant du temps dans la prière, en renouvelant pour que lui reste le centre et que vous puissiez avoir la vraie joie. Deuxième chose que Paul nous dit au verset 8, si nous voulons garder la joie dans le Seigneur, après cultiver notre intimité, c'est de veiller sur nos pensées. Portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est digne d'être aimé, ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale, ce qui est digne de louange. Veillez sur nos pensées. E.M. Bones, un grand homme de foi du fin 19e, début 20e, a dit ceci, il disait « Si la prière n'aboutit pas à une pensée juste et une vie droite, alors tout ceci n'est qu'une farce. » Si nous passons du temps dans l'intimité avec le Seigneur, à un moment, ça devrait commencer à changer nos pensées. Sinon, ça ne sert à rien. La prière marche parce qu'elle renouvelle nos pensées. Elle nous amène à voir les choses différemment. Lorsqu'on prie, on imagine souvent que c'est Dieu qui va changer. Et Dieu ne change pas. Donc nous prions, qui est-ce qui change ? C'est nous-mêmes qui changeons. Parce que dans l'attente de la réponse, dans les difficultés, nous commençons à voir les situations différemment. Nous posons nos soucis, parfois Dieu nous amène à autre chose. Une fois qu'on a laissé nos soucis, on peut accueillir quelque chose d'autre où il veut nous mener. Et c'est nous qui changeons. On apprend à connaître ce Père, à mieux nous aligner sur ses desseins, et notre intelligence, notre pensée commence à être transformée. Paul nous parle de différentes choses dans ses pensées. Il nous parle de ce qui est vrai, c'est-à-dire le contraire de ce qui est malhonnête, ce qui est honorable, c'est-à-dire les choses qui sont dignes en soi, dignes de respect, les choses qui sont justes, c'est-à-dire qu'elles sont conformes aux standards de Dieu, les choses qui sont pures, c'est-à-dire qu'elles sont saines, elles sont étrangères à l'immoralité, les choses qui sont aimables, c'est-à-dire ce qui ne suscite pas la querelle, mais qui, au contraire, amène la paix, les choses qui méritent l'approbation, c'est-à-dire ce qui est constructif et non pas ce qui pourrait être négatif et destructeur, et puis les choses qui, en elles-mêmes, et probablement qu'il est en train de résumer toutes ces choses qui sont vertueuses, dignes de louange. Comment cultiver ça dans nos pensées? Eh bien, une des choses qu'il va falloir faire attention, c'est avec quoi est-ce qu'on va nourrir, justement, nos pensées. Quand j'étais ingénieur, j'ai travaillé dans l'industrie, et je me souviens, il y avait ce slogan en anglais qui disait « garbage in, garbage out », et qui voulait dire que si vous prenez des matières premières minables et que vous essayez de faire un bon produit avec, ça ne marchera pas. Avec des matières premières minables, vous aurez à la sortie un produit minable. Garbage in, garbage out. Vous mettez des détritus en entrée, vous aurez des détritus à la sortie. Eh bien, avec nos pensées, c'est un petit peu la même chose. Si nous nourrissons nos pensées avec n'importe quoi, eh bien, il y a un moment, ça donnera dans notre vie n'importe quoi. Parce que nos pensées mauvaises vont amener des raisonnements mauvais, des habitudes mauvaises, un caractère mauvais et finalement une vie mauvaise. Avec quoi est-ce que nous nourrissons nos pensées? Si nous voulons garder la joie dans le Seigneur et pas tomber dans les inquiétudes tout le temps, ne pas être au centre constamment de notre vie, eh bien il va falloir nous nourrir avec des pensées qui encouragent cela. Si nous passons notre vie sur les médias, sur BFM TV ou je ne sais quoi, eh bien il y a des chances que nos pensées soient plutôt rythmées par l'inquiétude, par la convoitise de toutes les publicités que je vais voir, par des idoles de ce monde qui me promettent le bonheur facile ou alors simplement devenir une meilleure version de moi-même et ce genre de choses. Et tout cela va m'amener à me réjouir dans d'autres choses que dans le Seigneur. Et à la fin, ça va me laisser déception, inquiétude, fatigue, lassitude et toutes ces choses-là. Si je veux nourrir mes pensées avec ce qui est juste, vrai, honorable, pur, digne d'être aimé, ce qui mérite l'approbation, eh bien il va falloir que j'aille à la source de cela. Et l'endroit où je vais pouvoir trouver toutes ces pensées, c'est bien sûr dans la parole de Dieu. C'est là où je vais trouver ce qui est vrai, conforme à la vérité de Dieu, ce qui est juste, qui est conforme à ses standards, ce qui est pur, ce qui est saint, et toutes ces choses-là. Et ça pose la question, si ma joie commence à tiédir, est-ce que je prends l'initiative de passer plus de temps dans la parole de Dieu, à sonder les Écritures, à renouveler mon intimité, non seulement par la prière, mais aussi en creusant les standards de Dieu, et en laissant la parole de Dieu nourrir mon caractère, mes habitudes et ma vie. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre discipline de lecture de la parole, mais peut-être que c'est l'occasion de poser la question, est-ce que Dieu me demande de faire du changement, de peut-être resserrer un petit peu les boulons si j'ai commencé à être négligent. Je me souviens au début de ma vie chrétienne, un serviteur de Dieu qui était plus âgé m'a mis dans les mains un livre qui s'appelle « Si tu veux aller loin », qui est écrit par Ralph Chalice. J'imagine que beaucoup ici l'ont lu, mais peut-être pas tous. C'est peut-être un bon livre à lire si vous ne l'avez pas encore lu. Et je me souviens, Ralph Chalice écrit ce livre pour un jeune chrétien. Il imagine un jeune chrétien qui vient de se convertir. Il dit « Voilà, tu dois avoir 20 ans, peut-être un peu moins. » Et tu te demandes à quelle fréquence te nourrir de la parole de Dieu. Il dit, ben imagine que tu lises un chapitre par jour et il te faudra à peu près 4 ans pour lire ta Bible en entier. Et donc si tu fais ça pendant 20 ans, et ben au bout de 20 ans, tu auras lu seulement 5 fois la parole de Dieu en entier. Et en fait, tu seras encore très jeune dans la foi. Et si par contre, tu commences à prendre l'habitude de lire ta Bible chaque année, ce qui représente à peu près 4 chapitres par jour, c'est 20 minutes tous les jours pour un lecteur à peu près de vitesse normale, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Tu vas lire ta Bible chaque année, au bout de 20 ans, tu auras lu 20 fois l'Écriture et tu seras déjà un père dans la foi. Et moi je me souviens d'avoir lu ça et ça m'a marqué, je me suis dit, ben, c'est un bon conseil, ça sonne logique, on va essayer. Et j'ai commencé à prendre l'habitude de lire et de lire encore, année après année, la Bible en entier. Alors, ce n'est pas une loi, hein. Vous pouvez être un chrétien, fidèle, lire votre Bible chaque année en entier. Dieu ne vous aimera pas plus et il ne vous aimera pas moins que si vous la lisez une fois tous les 4 ans. Mais l'idée, c'est de se dire, si je veux nourrir mes pensées, connaître mon Seigneur, être conséquent avec celui qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi, eh bien, il y a un moment, je vais devoir me discipliner et avoir une routine qui fait que mes pensées vont être nourries avec ce qui est saint. Et lorsqu'on met ce qui est saint en entrée, eh bien, on aura ce qui est saint en sortie. Si tu as du mal, trouve un équipier, sois redevable envers quelqu'un. Peut-être que certains le font déjà. Moi, pendant des années, j'ai eu un groupe de croissance. On se retrouvait avec 2 hommes, 3 hommes chaque semaine. Et puis, on se disait, alors, cette semaine, est-ce que tu as réussi à lire la parole de Dieu? Est-ce que tu as terminé la lecture de la Bible? Et puis, on se fixait un objectif comme ça, d'une semaine à l'autre. Et puis, qu'est-ce qu'on faisait aussi? Eh bien, on parlait de nos difficultés, de ce qui n'allait pas dans nos vies. Et l'idée, c'était de faire le ménage, de pouvoir confesser ce qui n'allait pas. Et comme ça, on expérimentait la grâce. À la fois, on se libérait de choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Et on se nourrissait de ses pensées. Et on priait les uns pour les autres. Mais si tu as du mal, que tu luttes dans tes pensées avec des choses qui sont malsaines, perverses, eh bien peut-être trouve quelqu'un dans l'église. Passe du temps avec lui chaque semaine. Encouragez-vous à lire l'écriture. Parlez de vos combats, de vos difficultés. Et Dieu va vous renouveler. D'abord, se nourrir avec ce qui est bon. Et puis ensuite, il va falloir dire à Dieu ce qui n'est pas à sa gloire dans nos pensées. Le danger serait simplement de se remplir de la parole sans jamais dire, Seigneur, tu vois, dans ma tête, il y a ça qui ne fonctionne pas. Et ça, il va falloir l'amener à Christ. Surtout pas essayer de se battre par nous-mêmes. Parce que vous savez ce que c'est le problème avec nos pensées? C'est que plus on essaye de ne pas penser à quelque chose, et plus on y pense. Regardez, ne pensez pas à un éléphant. Qu'est-ce que vous voyez tous en ce moment? Un éléphant! C'est comme ça que ça marche. Et si vous regardez vos péchés, vos pensées, ces fausses vérités, ces idées malsaines, et que vous vous dites, il faut que j'arrête de penser à ça, et bien en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez les pieds dans le tapis, et ça ne fonctionne pas. Nous ne pouvons pas lutter nous-mêmes contre le péché. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut l'amener à Christ. Dire, Seigneur, tu vois, dans ma vie, il y a ça. Et lui le confesser. Il le sait déjà, il l'a déjà vu. Il attend juste qu'on porte sur nos vies le regard que lui-même porte. Et de dire, oui, c'est vrai, Seigneur, ça, c'est pas à ta gloire. Ça, c'est pas correct. Ça, c'est pas juste. Ça, c'est pas pur. Ça, c'est pas aimable. Ça, c'est pas digne de louange. Et lorsqu'on fait ça, eh bien, si nous confessons, son sang nous purifie des œuvres mortes. Et c'est comme ça qu'on amène nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Et qu'on peut puiser nos forces, jour après jour, dans la grâce. Jour après jour, goûter à la joie de celui qui vient encore et encore laver mon péché. Alors d'abord, veillez sur notre intimité, veillez sur nos pensées. Et puis enfin, l'apôtre Paul continue et il nous dit au verset 9, « Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de paix sera avec vous. » Troisième clé de l'apôtre Paul pour garder sa joie dans le Seigneur, c'est de pratiquer le modèle qu'on a reçu. Qu'on a reçu bien sûr du Seigneur lui-même, mais de tous ceux qui lui ont été fidèles, comme l'apôtre Paul et tant d'autres, et puis le modèle qui nous est donné dans l'Écriture. Entretenir notre intimité, veiller sur nos pensées, pratiquer le modèle reçu. C'est bien de se nourrir de l'Écriture, d'être fidèle à l'Église, de se garder du mal, mais Dieu attend aussi qu'à un moment nous agissions dans ce monde pour sa gloire, que nous pratiquions le modèle que nous avons vu en Christ et dans la parole. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans l'enchaînement des idées de l'apôtre Paul, cela arrive en dernier. Paul démarre d'abord avec l'intimité avec le Seigneur, la prière, et puis notre caractère qui est changé. Et enfin, aller vers l'extérieur, marcher selon le modèle reçu. Et c'est très important de faire dans cet ordre-là. Parce que si vous essayez de faire les choses dans l'autre sens, vous avez rendez-vous avec l'hypocrisie religieuse. C'est ce que faisaient les pharisiens. Ils avaient tout un tas de standards extérieurs auxquels ils se conformaient. De l'extérieur, ça avait l'air tout bien. Mais lorsque Jésus les voit et qu'il connaît le fond des cœurs, il dit, ben, vous nettoyez le dehors de la coupe, mais le dedans est plein de rapines. Pourquoi? Parce que leur standard qu'ils affichaient était simplement une conformité à des idéaux extérieurs. Ça venait pas du fond de leur cœur. La vraie joie, elle vient lorsque notre cœur est changé et que le comportement qui sort, il coule de notre cœur. Et donc, c'est pas quelque chose qui est produit par des exigences, tu dois. Non, c'est quelque chose qui découle de ce qui est en dedans. C'est parce qu'on a cette vie avec le Seigneur, qui est nourrie dans la prière, qui est remplie par la parole, et bien que du coup, on devient capable de porter ce fruit à l'extérieur, qui est beau, et qui est fait pour faire plaisir à Dieu, et qui est fait dans une attitude de douceur, et non pas pour être bien vu, ou se faire valoir, ou pour gagner des points. Il n'y a pas de points à gagner dans l'Église. C'est notre cœur qui s'exprime. C'est l'amour de Dieu qui est en nous, qui déborde et qui rejaillit sur les autres. Et c'est cela que Paul veut qu'on vive. Il est en train de dire, si vous passez du temps avec le Seigneur, si Dieu vous purifie jour après jour, s'il nettoie vos pensées, eh bien, à un moment, tout cela doit se revêtir d'œuvres bonnes qui vont découler de cela. Je ne sais pas où vous en êtes dans vos vies avec le Seigneur et si la joie est là ou pas. Si jamais la joie n'est pas là, eh bien, je voudrais vous encourager à réfléchir avec cette petite image, une image que j'ai eu l'occasion parfois de donner à des jeunes chrétiens que j'accompagnais dans un parcours de discipulat. Et on leur demandait souvent, on faisait une étude sur l'évangile de Jean, et puis on arrive à ce passage où Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et il dit, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Cette abondance, cette joie. Et puis on pose cette question aux jeunes disciples, alors est-ce que dans ta vie, est-ce que les fleuves, ça coule? Et souvent, pas forcément. Parfois, il y a cette sécheresse, ou alors c'est fade, et on ne sait pas trop d'où ça vient. Et alors, j'aime cette image qui dit, mais c'est comme si notre vie était un tuyau. Et ce tuyau est amené à être connecté à Christ, la source, et puis à jaillir dans ce monde. Et si vous avez fait un peu de plomberie, vous savez que quand l'eau ne coule pas d'un tuyau, il y a trois possibilités. Soit le tuyau n'est pas raccordé à l'entrée, soit à la sortie, le robinet n'est pas ouvert, soit il y a quelque chose qui bouche au milieu. Et dans nos vies, c'est un petit peu pareil. Être raccordé à l'entrée, c'est être connecté à Christ, c'est la question de l'intimité. Je ne peux pas espérer avoir la joie de Christ et la vie de Christ en moi si je ne passe pas du temps dans sa présence. Il faut d'abord nourrir cette intimité. Et puis, parfois, il y a un problème, c'est que même si je passe du temps avec Jésus, je ne ressens pas cette joie. Je ne vois pas cette vie qui coule en moi. Et là, c'est peut-être que quelque chose bouche au milieu. Et souvent là, c'est le problème du péché. Et c'est là où il va falloir renouveler nos pensées. Mais parfois, il y a des chrétiens qui me disent, je ne comprends pas. Je passe du temps avec le Seigneur. Vraiment, je me garde du mal, je suis sincère devant Dieu. Chaque fois que je vois quelque chose qui n'est pas réglo dans ma vie, je demande pardon. Et je n'ai pas l'impression d'avoir des péchés qui sont là et que je devrais régler. Mais pourtant, je sens comme un vide. Quelque chose qui n'est pas là. Et souvent, je me suis rendu compte que cela venait parfois d'une vie chrétienne très rangée. On a tendance à se garder du monde. Mais on n'est pas dans l'attitude qu'à un moment Dieu veut que nous engagions le monde pour y porter du fruit. C'est cette idée de se garder des péchés qu'on pourrait commettre, mais par contre, d'omettre ce que Dieu voudrait que je fasse dans ce monde. Autrement dit, passer du temps avec Dieu, me garder du mal, mais oublier d'aller dans le monde pour faire du bien et y porter du fruit. Et quand Paul est en train de pratiquer le modèle reçu, il s'agit de son modèle, ce que vous avez vu en moi. Quelqu'un qui aurait pu avoir la vie la plus excellente de l'époque, il avait le meilleur passeport, il était citoyen romain, il avait les meilleures études, il avait étudié auprès de Gamaliel, il avait les meilleures origines sociales, c'était le fils de pharisien, mais il dira que tout ça, il l'a considéré comme de la boue pour la cause de Christ. Et que lui, son combat à l'apôtre Paul, c'était d'être dans ce monde, et il en parle au chapitre 1 et au chapitre 3, un citoyen digne de l'Évangile. Quelqu'un qui allait dans le monde et qui allait au milieu de cette génération corrompue et perverse porter la parole de vie comme un flambeau dans le monde. Paul, son modèle, c'était pas simplement d'être un chrétien qui se garde du mal et qui attend le retour du Seigneur en espérant ne pas avoir trop de problèmes. C'était quelqu'un qui passait sa vie à aller dans ce monde, à témoigner de l'amour de Dieu et à encourager d'autres à rentrer dans cette vie-là avec le Seigneur. Et je crois qu'il n'y a rien dans nos vies qui ne peut nous donner plus de joie que de nous mettre à pratiquer ce modèle-là et de chercher instamment à ce que toute notre vie soit un témoignage pour l'Évangile et à réfléchir à comment dans chaque domaine de ma vie je peux de façon active chercher à glorifier Dieu. Qu'est-ce qui fait que souvent notre vie manque de joie ? C'est parce que parfois nous passons du temps avec le Seigneur, nous cherchons dans nos vies à traquer le péché que nous aurions pu commettre, mais souvent nous oublions de nous engager dans le service pour Jésus. Et si nous en restons simplement à passer du temps avec Dieu, à nous garder du mal, sans rentrer dans le service pour notre Seigneur, je crains que la joie ne soit pas forcément au rendez-vous. Au contraire, notre vie va vite nous donner l'impression d'être fade, un peu tiède, et de manquer de quelque chose. Pourquoi ? Parce que si Dieu nous a créés, c'est pas simplement pour que nous soyons sauvés, que nous lui appartenions, mais c'est aussi pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça pose la question, qu'est-ce que Dieu attend de toi ? Bien sûr que tu sois sauvé, mais ensuite, qu'est-ce qu'il attend de toi pour ta vie ? Quelles sont les choses pour lesquelles il t'a créé spécifiquement et qu'il n'y a que toi que tu peux accomplir ? Et si tu n'as pas encore trouvé, je t'encourage à chercher. Demande à Dieu, prie, demande à tes responsables dans l'Église, à tes amis proches, aux frères et sœurs dans la foi qui te connaissent bien. Demande-leur quels sont les dons qu'ils voient en toi. Demande-leur, quand ils regardent ta vie, ce qu'ils voient, comment Dieu se manifeste. Et probablement que ça va commencer à te donner des idées. Peut-être que Dieu va te mettre des choses à cœur, parfois des choses même un peu folles, parce que Dieu aime des fois nous pousser dans des choses qui ne seraient pas communes. Mais lorsque tu vas rentrer là-dedans, c'est là où tu vas trouver de l'épanouissement. Et peut-être que c'est dans ton travail, en osant peut-être davantage afficher ta foi et pouvoir dire à tes collègues l'espérance qui t'anime. Peut-être que c'est dans ton voisinage. Peut-être que c'est en démarrant quelque chose de nouveau dans ta famille pour que tes enfants, tes parents, tes frères et sœurs puissent entendre parler de l'amour de Dieu. Peut-être que c'est en t'investissant dans l'Église. J'imagine que comme dans toutes les églises ici, il y a énormément de besoins et de choses à faire pour se servir les uns les autres. Et tu ne peux pas simplement rester là et te dire « je passe du temps avec le Seigneur, je me garde du mal et tout va bien, ça tourne sans moi ». Non, Dieu attend à ce que tu mettes ton don au service des autres et avec zèle, avec joie, avec force. Peut-être que Dieu te demande à un moment de laisser des choses dans ta vie pour te concentrer sur quelque chose auquel il t'appelle spécifiquement. Peut-être que pour certains, c'est de lâcher un travail et d'aller se former quelques années en école biblique et puis de partir en mission. Ou alors de revenir ici et de servir le Seigneur en étant mieux formé. Et vous pouvez avoir toutes sortes de possibilités. Chacune de vos vies est unique. Et Dieu veut un moment que dans votre vie, vous pratiquiez le modèle que vous avez reçu de lui. Et lorsque nous faisons cela, et que nous osons, entre guillemets, prendre des risques pour Dieu, c'est là aussi où nous allons pouvoir expérimenter la joie. La joie de voir Dieu au rendez-vous quand nous osons nous engager pour lui avec nos 5 pains et nos 2 poissons, et où nous laissons Dieu faire le reste. Et ça vous amène dans des situations où vous allez vivre des choses où Dieu va vous utiliser. Et lorsque vous le voyez, parfois vous réalisez que Dieu fait même au-delà de ce que vous auriez pu imaginer ou penser. Et vous vous sentez tout petit, et vous sentez le Seigneur vous dire, tu vois Philippe, si tu es sur terre, c'est pour des choses comme celle-là. Et je me souviens, ça m'est arrivé par exemple une fois où on avait entendu parler d'un jeune réfugié qui cherchait un logement, un mineur isolé, il avait une 15aine d'années, et il vivait dans un squat avec une 30aine de réfugiés à Saint-Étienne, sous une église catholique. Il y avait un prêtre qui, contre les remontrances du préfet, de l'évêque, etc., avait ouvert son église et puis stockait des réfugiés ici. Et je dis stockait parce que c'est vraiment comme ça que ça se passait, hein, les pauvres, ils étaient les uns sur les autres. Et on apprend qu'il y a ce jeune mineur qui était là, et puis une sœur qui écrit au pasteur de Saint-Étienne et puis qui dit voilà, il y a ce jeune, et est-ce que quelqu'un aurait une place pour lui? Et c'était le mois de juin. Et puis moi je vois ça, je dis oui, bon, je ferai suivre aux collègues, on va essayer de voir. Et puis deux semaines passent et le même mail revient, on n'a toujours trouvé personne pour ce jeune, ça serait bien que quelqu'un fasse quelque chose pour lui. Et je commençais à sentir le Seigneur me travailler un petit peu. Et puis l'été passe et j'avais toujours rien fait. Et puis on arrive à la fin de l'été et je devais aller prêcher dans une église au Chambon-sur-Lignon où était cette sœur justement. Et je me souviens, j'allais prêcher dans cette église. Et le message que j'avais préparé pour ce jour-là, c'était la fin de l'évangile de Jean lorsque Jésus dit à Pierre « Que t'importe, toi, suis-moi ». Et puis je vais au pupitre, je commence à prêcher, je parle de ces façons dans la vie dont on a de regarder ailleurs au lieu de répondre à l'appel de Dieu, et comment est-ce que Dieu nous appelle à le suivre. Et au fur et à mesure que je prêchais, je voyais cette sœur qui était au dernier rang, et je me rappelais les mails qu'elle m'avait envoyés, cette demande qui était là, et je me disais « Mais que t'importe ?» Toi, est-ce que tu es prêt à suivre le Seigneur? Et puis à la fin du culte, je vais voir cette sœur. Elle me dit, au fait, est-ce que tu te souviens du mail que j'ai envoyé? Oui, je me souviens. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose sur Saint-Étienne? Je dis, non, pas encore. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être fait? Je dis, écoute, je crois que c'est depuis 2 mois, le Seigneur me travaille et c'est peut-être moi qui dois être la réponse. Et je me souviens, on était dans notre 80 mètres carrés. On avait nos grandes filles, la troisième qui était bébé. Et puis on s'est regardé avec ma femme et on s'est dit, ben voilà, ce jeune, il est à la rue. Si c'était notre enfant, est-ce qu'on accepterait de se serrer? Et puis on s'est dit, ben ouais, sans doute. Et puis alors du coup, on a été voir et c'est comme ça qu'on a accueilli Oscar, qui avait 15 ans à la maison. Il a dormi par terre. Alors moi, j'avais déjà été au Tchad, je me suis dit, c'est pas grave, là-bas, ils connaissent, souvent ils sont 4 dans une pièce à dormir par terre, ce sera toujours mieux que le squat. Et puis c'est comme ça qu'on a pu le prendre à la maison. Et je me souviens le jour où j'ai été le chercher dans ce squat, où vraiment les gens étaient les uns sur les autres, avec quasiment rien, et on l'a pris. Et je me souviens de ce moment où il a passé la porte de la maison. Et à ce moment-là, une joie immense qui nous a envahis. Et toutes les craintes qu'on avait de se dire, mais qu'est-ce que ça donne de mettre un ado avec des petites filles de 2 ans, 4 ans, un bébé, dans cette situation, ça paraît tellement à vue humaine, pas logique et insensé. Et on avait toutes ces questions-là, et on se disait, mais qu'est-ce qui va se passer? Comment tu vas faire? Est-ce que tu mets en danger ta famille? Au moment où il est passé, tout à coup, toutes ces craintes-là sont tombées. Et une immense joie. Et comme si le Seigneur nous disait, tu vois, c'est pour des choses comme ça que tu es sur terre. Et Oscar est resté quelques mois chez nous, et puis après, il a pu rejoindre une autre famille de l'église, et il a pu s'intégrer dans la société française, avoir des papiers, avoir un diplôme, et on l'a vu aussi avancer avec le Seigneur. Et c'était beau. Et des fois, on a des situations comme ça où des choses passent, et on peut passer, les regarder, et parfois on ferme. Je me souviens quand j'étais étudiant, j'étais en colocation à l'école des mines, et puis un soir, alors que je rentre en train, j'arrive à la gare de Nîmes, et là je vois un jeune qui tournait dans la gare, et puis il vient me voir et me dit, « Monsieur, j'ai nulle part où dormir cette nuit, est-ce que vous auriez une solution pour m'héberger ?» Je dis, bah, « Je sais pas, c'est compliqué, je vais réfléchir, je pensais à mes 2 colocs non chrétiens, et je me disais, si je leur ramène un autre gars à la maison, qu'est-ce qui va se passer ?» Et puis je dis non, ça va être compliqué, etc. Et puis je vois ce gars qui tourne, j'attends. Et puis au moment où je me dis, il faudrait quand même bien que je fasse quelque chose, je vois 2 personnes qui arrivent chez lui, c'était le SAMU social qui arrivait pour le prendre pour la nuit. Il avait vu le numéro sur une affiche et il allait passer la nuit là-bas. Eux s'étaient déplacés. Et je me souviens d'être rentré jusque à l'appartement où je logeais avec mes 2 colocs, avec une tristesse dans le cœur terrible. Et me dire, tu vois, j'aurais pu avoir ce jeune à la maison, peut-être lui parler de Jésus, peut-être même que ça aurait été l'occasion de parler à mes 2 colocs de Jésus, de pourquoi j'avais à cœur qu'on accueille ce gars. Et finalement, j'étais pas prêt et Dieu avait prévu autre chose pour lui. C'est pas grave. Dieu nous pardonne nos insuffisances. Mais combien de fois on se prive de la joie parce que dans des situations où Dieu nous demande des choses un petit peu folles, on refuse d'y aller et après on se sent triste comme un croque-mort. Et on n'a plus la joie, parce qu'on n'a pas pratiqué le modèle reçu. Je ne sais pas en ce moment ce que Dieu te demande de faire. Si c'est un acte de compassion, un acte de générosité. Peut-être cette personne que Dieu met sur ta route, et où tu sais qu'il attend que tu lui parles. Et puis tu repousses, et ça ne te lâche pas. Ose y aller. Peut-être que c'est dangereux, peut-être que ça risque. Peut-être que tu crains pour ta réputation et pour toute chose. Mais rappelle-toi, celui qui nous remplit de joie, c'est celui qui est sur le trône, qui contrôle toute chose. L'apôtre Paul était prêt à aller en prison pour lui. Il était prêt à donner sa vie pour ce Seigneur. Et il nous invite, nous aussi, à pratiquer le modèle que nous avons reçu de lui. L'année 2023 a démarré, ça fait déjà 43 jours. 12% de l'année est passée. Je ne sais pas si tu avais pris des bonnes résolutions. Parfois, il y en a le 1er janvier, ils disent « Résolution avec le Seigneur, je vais faire ça. » Peut-être que tu as déjà laissé tomber. Mais ce n'est pas trop tard. Qu'est-ce que tu vas faire cette année pour renouveler ton intimité avec le Seigneur, pour veiller sur tes pensées, pour pratiquer le modèle reçu? Tout à l'heure, on a pris la scène. Ça nous rappelle nos insuffisances, à quel point nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que si tu te sens insuffisant, comme moi je me sens insuffisant, sa grâce est disponible. On peut venir à lui et dire « Seigneur, tu vois mes insuffisances. Toi, tu as donné ta vie pour moi. Viens renouveler mon intimité. Ranime en moi ta passion. Pardon pour ces mauvaises pensées. Renouvelle mes pensées. Pardon pour mes négligences à pratiquer le modèle que j'ai reçu de toi. Viens ranimer le zèle que tu as mis en moi. » Et lorsque nous prions jour après jour, eh bien nous laissons à Dieu l'opportunité d'agir. Et alors nous pouvons goûter la joie. Quand bien même nous serions au milieu des épreuves, des détresses, des deuils, des souffrances, des difficultés, il va garder nos cœurs en Jésus-Christ. Et vous avez vu au début du texte, c'est la paix de Dieu qui nous accompagne. Et à la fin, si on pratique le modèle reçu, le Dieu de paix sera avec vous. Non seulement nous avons sa paix, mais nous avons Dieu lui-même. Prions. Notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci parce que tu as donné ce qui t'était le plus cher pour que nous puissions avoir la joie et que notre joie soit complète. Seigneur, pardon pour toutes les fois où tu n'es plus au centre de notre vie et où nous tournons vers des idoles qui apportent la satisfaction à nos sens mais qui souvent nous laissent vides, amers, sans joie. Seigneur, je te prie que ce matin nous puissions revenir à toi, crier à toi, que nous puissions répondre à ta parole. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Merci parce que tu donnes l'eau de la vie gratuitement. Et qu'en toi, nous pouvons trouver la vraie joie. Pardon pour mes insuffisances, pardon pour nos insuffisances, pour notre manque de joie à venir te rencontrer, à être renouvelé par toi. Pardon pour toutes les fois où nous avons délaissé ta parole. Seigneur, que tu viennes nous redonner un cœur pour ta parole. Et qu'elle puisse façonner nos pensées, changer notre caractère, nos habitudes. Et Seigneur, apprends-nous à pratiquer le modèle que nous avons reçu de toi. Même quand nous avons peur, même quand ça coûte, même quand nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Seigneur, merci parce que tu nous précèdes. Et que si nous marchons selon tes voies, tu nous promets d'être avec nous. Et nous savons qu'il n'y a pas de chemin qui peut nous donner plus de joie qu'une vie vécue pleinement pour toi. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs. Merci pour leur œuvre ici, dans l'Église, entre eux, mais aussi au travers de cette Église, dans le monde autour. Je te prie que tu les renouvelles, que tu leur donnes une plus grande passion pour toi, une nouvelle vision de toi, et qu'ils puissent trouver cette joie indescriptible à demeurer en toi et à porter du fruit pour toi dans cette belle ville de Lyon où tu les as placés. Amen.